solo esta vez. Ole, ole, ole.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Potpourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
J'ai raté mon émission sur TV5 Monde.
Pour ne plus rien rater les programmes de TV5 Monde, tv5mondeplus.com. À vous de voir ou de revoir.
Les médias publics, ce sont les vôtres. Alors quoi de plus normal que d'imaginer leur avenir avec vous? En 2018, déjà, vous étiez nombreux à nous répondre. Alors, en cette année si particulière, Qu'attendez-vous de vos médias publics? Info, éducation, divertissement, culture, sur nos réseaux de proximité ou internationaux, venez proposer vos idées sur nosmediapublics.fr. Parce que rien ne se fait sans vous, inventons aujourd'hui ensemble les médias de demain.
Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un combat. Le combat contre les violences conjugales. 150 femmes meurent par an. Une tous les 3 jours. Une femme sur 10 est confrontée à la violence conjugale. Elles ont besoin de vous. Nous devons leur tendre la main pour les sauver, pour sauver des vies. Je suis le porte-parole de ce combat. Croyez-moi, on le mènera jusqu'au bout. Alors je vous propose que nous nous retrouvions devant le palais de justice de Paris à 14h demain, samedi. Et en province, vous pouvez initier aussi des rassemblements avec les réseaux sociaux. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts, plus nous serons légitimes pour demander des choses au gouvernement. Il faut que ça change et ça commence aujourd'hui.
Bonjour à tous, c'est une émission spéciale autour des violences conjugales que nous vous proposons cet après-midi en direct sur France 2. Vous l'avez compris, il faut que ça change. Muriel Robien vient de le dire, on ne peut plus tolérer cette hécatombe, ces femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints. Parce que ces femmes, ce sont nos mères, ce sont nos sœurs, ce sont nos filles, nos voisines. On doit les encourager à sortir du silence. Voilà pourquoi il était nécessaire et urgent d'en parler à 14h sur le service public, d'en parler au plus grand nombre, à toutes les générations et y compris à nos enfants qui seront les hommes et les femmes de demain. Pendant l'heure que l'on va passer ensemble, on va écouter Sonia, Florence, Elisabeth et Cathy. Elles vont nous raconter leurs années de calvaire, leur reconstruction et leurs espoirs aussi. Et puis comme tous les vendredis, on est en direct. Alors on attend vos réactions sur la page Facebook de Ça commence aujourd'hui ou via Twitter avec le hashtag Ça commence aujourd'hui CCA. Merci d'être avec nous.
Dimanche 29 novembre 2020, merci de votre contribution à Potpourri Show. CUT 89,5 FM, toujours à vos côtés. Bienvenue à Potpourri Show, votre magazine de la francophonie. L'ingénieur du son, DJ Devera, animation, production, Eric Kader. Un bonjour spécial à ceux et celles qui participent et collaborent à cette présente émission. Stéphane Cormier, co-directeur général et directeur de la commercialisation aux éditions Prise de Parole, qui nous fait découvrir tant de merveilleux auteurs francophones de l'Ontario et du Canada. Tous les liens sont sur potpourrichaud.com. Salutations chaleureuses à ceux qui nous écoutent à Rennes, à Toulouse, à Paris, Montréal, Ottawa, Gatineau, Welland en Ontario et le comté de Simcoe. Bonjour, il y a beaucoup de gens de la région de Whitby, Oshawa qui nous écoutent régulièrement. Port-au-Prince, Haïti, Port-Louis-Île-Maurice, Dakar au Sénégal, Côte d'Ivoire est au rendez-vous chaque semaine et beaucoup d'auditeurs à Tokyo et aux États-Unis. Et bonjour aussi très spécial au professeur Carole Fleuret à l'Université d'Ottawa qui sera des nôtres très prochainement pour nous présenter un tout nouveau livre. Et bonjour à Wiltrud in Germany, une auditrice de longue date en Allemagne. Le menu de ce dimanche fait référence à deux thèmes majeurs en ces temps de pandémie, humanité, solidarité. Nous gardons le tempo avec les activités lancées le 25 novembre sur la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Si la volonté existe, il y a moyen de mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Rien que l'année dernière, 243 millions de femmes et de filles ont subi des violences sexuelles ou physiques. La pandémie accentue le calvaire des femmes victimes de violences conjugales. Aujourd'hui, nous donnons la parole aux femmes victimes et à Gentil Assi. Elle est cinéaste d'origine togolaise qui vit à Montréal. L'Office national du film a pris les grands moyens pour le lancement de son dernier film documentaire, Sortir de l'ombre, qui met la lumière sur les récits de vie émancipateurs de Québécoises inspirantes originaires de l'Afrique. Un film disponible en ligne onf.ca. Nous recevrons Gentille Assis, réalisatrice. Et parmi mes questions, quels sont les obstacles de ces femmes qu'elle a rencontrées lors du tournage? Quel est l'objectif de ce film? Et quel est le poids des femmes noires francophones dans les organismes luttant contre la violence faite aux femmes au Canada? Vers midi, nous recevrons notre ami chroniqueur et sociologue Frédéric Boiron qui nous présente son troisième livre intitulé « Inconduite, tweets et autres bullshit d'une élite en faillite », un livre sur l'état de la démocratie dans le monde. Et il identifie pour nous des voyous, des criminels et des repris de justice qui occupent des postes de pouvoir à travers le monde. Frédéric Boiron ne laisse personne indifférent, c'est un personnage décapant, un auteur percutant, un sociologue plus infréquentable que jamais. Veuillez visiter son site frédéricboiron.com et faites-moi part de vos impressions. Au menu, nous serons accompagnés de la voix chaude et chaleureuse de la Tunisienne. C'est une découverte en effet, une Tunisienne, Nawal Nem Rahem, artiste exilée des deux rives. Une entrevue à la fin de cette émission pour mieux la connaître. Collaboration de TV5 Afrique. Ça bouge au Créfaux avec une conférence en ligne prévue pour le jeudi 10 décembre par Camille Blanchard-Séguin, candidate à la MA à OISI, Université de Toronto. Le thème « Inclusion et langue française, les stratégies linguistiques des membres du personnel responsable des groupes LGBTQ2+ ». Donc, à ne pas rater le jeudi 10 décembre, ça se passe en ligne. Vous recevrez les liens sur notre site ou sur le site du Créfaux. Et puis, le nouveau podcast « Quoi de neuf du Créfaux, les cafés du Créfaux », l'invité de cette semaine, Normand Labrie. Professeur Labrie, membre du Créfaux, vice-doyen au programme, professeur titulaire à l'Université de Toronto. Vous trouverez le lien sur notre site. Pour vous aider à changer le mal de place, et oui, un brin d'humour, pourquoi pas, avec le comédien très très connu, très aimé en France et dans la francophonie, Laurent Gérard. La neige a fait sa rentrée chez nous et en ces temps de pandémie, que se passe-t-il dans les stations de ski en France? Les précieux conseils du ministre de la Santé, Monsieur Véran. Le comité d'écoute du prix Découverte RFI a sélectionné les 10 finalistes de l'édition 2020. Ils seront soumis au vote d'un jury composé d'artistes et de professionnels, mais également à celui du public qui veut voter jusqu'au 3 décembre à 23h59. Tous les liens sont sur notre site. Nous entendrons d'ailleurs quelques voix de ces poètes de la chanson française et des voix de l'Afrique vers la fin de l'émission. Et pour tout de suite, les buzz de la semaine. Et oui, ça va toujours mal à la GRC, une culture toxique. Règne à la Gendarmerie royale du Canada, selon un rapport dévoilé la semaine dernière. Le rapport démontre clairement les formes structurelles qui encouragent ou permettent les attitudes misogynes, racistes et homophobes. Le Premier ministre Justin Trudeau a dû s'expliquer aux journalistes lors d'un point de presse COVID-19 cette semaine. Et l'auteur de ce rapport est nul autre que l'ex-juge de la Cour suprême, maître Michel Bastarache. Voilà tant de vies gâchées, nous dit-on, et nous remercions tous les agents francophones de la GRC qui continuent à collaborer à nos émissions. De ONFR plus la plateforme numérique du groupe Média TFO, le journaliste Benjamin Vacher nous présente une entrevue express avec l'enseignant franco-ontarien Blaise Ngwendo Yonsi, qui est président de l'Association ontarienne des professionnels de l'éducation de la diversité. Le but principal de cette nouvelle association, de mieux représenter la diversité de ses membres. Cependant, cette association ne ferme pas la porte à un rapprochement avec l'Association des enseignants franco-ontariens, la UFO. Comme vous savez, il y a eu de la bisbise, malentendu, depuis 2 ans que ça dure. Monsieur Blaise Ngwendo Yonsi était d'ailleurs à notre émission le dimanche 1er novembre et son passage avait suscité plusieurs réactions de la part des auditeurs. Article à lire absolument. COVID-19, depuis lundi dernier, la ville de Toronto et la région de pile est en lockdown complet, comme on dit chez nos voisins français. Mais cette nouvelle restriction ne plaît pas à tout le monde. Les petits commerçants, restos, bars montent au créneau. Certains éditoriaux de grands quotidiens ont critiqué ouvertement le Premier ministre ontarien et mettent en doute sur le succès de la nouvelle stratégie de l'Ontario pour contrer la pandémie. Les dernières restrictions en Ontario mettent en danger justement des milliers de petites entreprises, des professeurs et analystes politiques, des universités mettent en garde le gouvernement contre la croissance des fractures et des inégalités sociales. Les premières doses de vaccins seront dispo début 2021, assure notre cher Premier ministre canadien Justin Trudeau. Selon un article de Radio-Canada, un nombre record d'élèves ont des idées suicidaires en Ontario. Un élève sur 10 dit avoir pensé au suicide, ce qui représente plus de 140 000 jeunes. Qui a dit quoi? Confinement n'a pas à rimer avec isolement. Eh oui, c'est une psychologue. Alors comment briser ce sentiment et aller mieux? La pandémie nous l'aura appris brutalement. Les conséquences du sentiment d'isolement sur la santé mentale sont nombreuses. Et bientôt, l'émission fera zoom sur quelques conseils et une nouvelle initiative avec un partenaire psychologue. En plein confinement, c'est la chasse aux sorcières et des mises à pied sans préavis dans un grand organisme francophone de Toronto. En effet, une employée victime de ces actes répressifs nous a confié sa crainte de parler aux grands médias par peur de représailles. Nous suivons ce dossier de très près. Langue française, un pas en avant, un pas en arrière. Loi 101 au Québec, dans les cégeps, on ouvre, puis on claque la porte. L'Association des juristes d'expression française de l'Ontario est fière d'avoir reçu un appui sans équivoque du ministre de la Justice du Canada et du Premier ministre du Canada concernant l'importance du caractère essentiel du bilinguisme au sein de la Cour suprême du Canada. Voilà enfin une bonne nouvelle après tant d'années de rudes batailles. Qui a dit quoi? Nous n'avons plus une minute à perdre. Pour aider les entrepreneurs français de l'étranger, c'est la sénatrice Jackie Derometti qui mène depuis plusieurs semaines une mission sur les difficultés rencontrées par les petits entrepreneurs français à l'étranger. Merci à Marc-André Cormier, conseiller consulaire, pour avoir partagé cette nouvelle. Il est aussi chroniqueur à cette émission. Où va la francophonie? Crise au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Après une vague de licenciements, la nouvelle secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushiki-Wabo, a prévenu les employés rescapés qu'elle sera sévère avec ceux qui ne travaillent pas assez fort. Le bureau d'enquête du Journal de Montréal rapporte que ces licenciements font partie d'une restructuration qui a également permis d'attribuer des voitures de fonction à la garde rapprochée de la secrétaire générale. Et le même bureau d'enquête a rapporté aussi que l'OIF cachait les dépenses du cabinet de la secrétaire générale ainsi que des rapports de vérification. Y a-t-il anguille sous roche à l'OIF? Si c'est le cas, c'est un vrai scandale pour la francophonie. Un dossier à suivre absolument. En France, restriction des déplacements assouplis, réouverture des petits commerces. Le président a desserré l'étau du confinement, mais a appelé les Français à la responsabilité pour les fêtes de fin d'année. Toujours en France, à Paris, l'évacuation d'un camp de migrants finit en chasse à l'homme. Tout un scandale. Après Donald Trump, le déluge, c'est l'éditorial du journal Le Monde. Cette semaine, l'attitude de l'actuel président des États-Unis vise moins à polir son legs politique qu'à saper l'autorité du futur président élu, le démocrate Joe Biden. En Haïti, rapidement, Yves-Jean Barthe, coupable d'agression sexuelle. La justice haïtienne lave le président de la Fédération haïtienne de football. La FIFA le condamne. Toujours en Haïti, Joseph Jout n'écarte pas l'éventualité d'un bain de sang face aux dérives du groupe Phantom 509, apparenté à des policiers. Du journal Jeune Afrique, Mali, en quelques semaines, la France a annoncé avoir neutralisé plusieurs des chefs du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Choix stratégique ou tactique conjoncturel. Voilà la grande question. Algérie, découvrez pourquoi plusieurs éléments de l'interview du président français dans Jeune Afrique ont agacé les Algériens. Ça fait le buzz en ce moment en Algérie. Au Togo, France, qu'as-tu fait de ta promesse de défendre les peuples opprimés ? Agbeyome Kodjo, dans un tweet publié sur sa page, le président démocratiquement élu du Togo rappelle au président français qu'il a oublié de parler du contentieux électoral du 22 février au Togo. À l'île Maurice, élection villageoise dimanche dernier, ça s'est passé dimanche dernier, la majorité des villages préfèrent l'opposition. Le scandale Angus Road semble déstabiliser complètement le parti au pouvoir. Et comme vous savez, c'est tout un scandale qui se déroule en ce moment au Parlement mauricien presque à chaque jour. Du journal France Antilles, la Martinique et femme de médias, Catherine Jean-Joseph Santuc est recrutée par Netflix France, eh oui, comme responsable des programmes inclusion, de la diversité, des contenus. En novembre 2015, la Martiniquaise a été élevée au rang de chevalier de l'Ordre national, eh oui, du mérite par la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. Le monde de la culture frappé de plein fouet par la pandémie et certains sont très créatifs. Comment ça se passe dans la francophonie ? Pourquoi la langue française est ainsi bafouée en France avec tant d'expressions anglaises ? C'est pour plaire à qui d'après vous ? Qu'est-ce que le click and collect et comment ça marche ? Nous avons posé la question à notre collègue de TV5 Monde, Linda Giger.
Hi, nice to see you. Oh my God. Okay, today I'm going to talk to you about, aujourd'hui, je vais vous parler de click and collect. Yeah, click and collect, yes. Click and collect is the new French expression, a nouveau expression française. Pour dire, je clique et je collecte. Click and collect is l'achat sur Internet d'un produit qu'on retire en magasin. Et c'est la même chose que cliquer payer, ou cliquer livrer, ou cliquer retirer, comme le recommande la délégation générale à la langue française et aux langues de France in Paris, le musée de Louvre. In Canada, l'Office québécois de la langue française propose ramassage en magasin ou collecte en magasin, c'est la même chose. In France, la tour fell. In France, they also sell these aussi check and reserve or click and pick up. C'est la même chose. It's the same thing. Click and collect is actually le gross tendance in Paris, les Champs-Élysées. Click and collect is the new way to live. It's the new way to be. So click and collect and be the one you are. And don't forget, n'oubliez pas que les, how do they say, social contacts, les contacts sociaux sont essentiels à la survie de notre espèce. Alors, on se fait un câlin, ok?
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Si j'ai choisi de faire de la radio ou de l'audiovisuel, c'est parce que j'ai été marqué dans ma petite enfance par un poste transistor que mon père m'avait offert. Parce que je voyais un peu la presse indépendante et écrite qui avait une certaine liberté de ton, d'expression. Je dis, je vais emprunter de cette liberté que je vais transcrire sur un plateau de télévision. En faisant quoi? En invitant l'auteur de l'article. Le président Senghor s'est arrêté de parler. Et il a dit, vous voyez les journalistes sénégalais, ils sont indisciplinés mais débrouillards.
Djadji, star de la télé, journaliste, diplomate et écrivain, bientôt en exclusivité sur la Belle TV.
CIUT 89.5, Toronto. Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann, la thérapeute, a déjà fait ses preuves. Yann, la thérapeute, possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann la thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
News, business, life. Africa 24. Les infos du monde pour l'Afrique. Les infos d'Afrique pour le monde. De Malabo à Nairobi, de Tunis à Cape Town. Africa 24 vous guide au cœur de l'actualité internationale et de l'actualité africaine. Avec Africa 24, le monde s'ouvre à vous grâce à un réseau exceptionnel de correspondants. Disponible en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Africa 24 est une analyse complète de l'actualité africaine et internationale. À chaque heure. Africa 24 est la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique et par l'Afrique. Les infos du monde pour l'Afrique. Les infos d'Afrique pour le monde. Africa 24. News. Business. Life.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Adair, je vous invite à Popourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT FM, chaque dimanche de 11h à 13h en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le Département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions prises de parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Comme 2 millions de femmes en France, elles ont été victimes de violences conjugales.
C'était souvent en tentative d'étranglement, tiré par les cheveux sur toute la longueur, et puis des coups de pied assassins.
Je n'ai jamais passé une semaine en 12 ans sans recevoir une raclée.
C'est cauchemardesque, quoi. Et je savais pas qu'on pouvait vivre ça.
Malgré ce calvaire, elles se sont tues pendant des années.
On finit par croire qu'on mérite ce qui nous arrive, en fait.
Pourquoi vous n'avez pas porté plainte à un moment donné?
J'avais peur de le perdre. Il était à genoux, il pleurait, il me demandait pardon.
Parce qu'on a toujours cet espoir, on va réussir à le changer. Mais quelqu'un qui commence à frapper une femme, il ne change pas. J'arrive pas à comprendre comment on en arrive là, j'arrive pas à comprendre pourquoi on part pas.
Mais finalement, la parole a été plus forte que les coups.
Mon médecin m'a dit, vous avez 29 ans, vous avez la santé d'une femme de 60 ans, partez, il va vous tuer.
Bon, j'ai réussi à ouvrir la porte, à partir, puis j'ai rejoint la police.
Quel est le message que vous avez envie de faire passer aujourd'hui?
À la première baffe, il faut partir.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde. Eh oui, notre campagne de financement a pris fin dimanche soir avec près de 65 000 dollars, pas très loin de notre objectif de 100 000 dollars. Alors, vous appréciez nos émissions, nos programmes. Je vous invite, madame, monsieur, à faire un don en ligne. Vous avez jusqu'à la fin de l'année pour le faire. Vous pouvez visiter le site de la radio, www.cut.fm. Merci du fond du cœur à ceux et celles qui contribuent si généreusement à notre émission tout au long de la semaine. CUTFM vous accompagne tout au long de cette pandémie. Merci à France 24, RFI, TV5 Monde. Et oui, chaque année, le 25 novembre, le monde se mobilise pour souligner la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette année, des chercheuses ont découvert que la pandémie a entraîné une hausse de la violence conjugale due au confinement. Quiconque qui travaille dans le domaine de la violence fondée sur le genre, sur la violence faite aux femmes, connaît cette terrible statistique souvent citée au Canada. Tous les 6 jours, une femme est tuée par son partenaire. Les chiffres sur la violence familiale, les agressions sexuelles, la violence psychologique, la coercition et les autres formes de violence envers les femmes et les enfants sont tout aussi alarmants. Ce problème est exacerbé par la discrimination systémique envers les autochtones, la communauté LGBTQI2+, la population rurale, les nouveaux arrivants et d'autres groupes marginalisés. Dans le contexte de la COVID-19, de nombreux intervenants du secteur parlent de la violence conjugale comme étant la pandémie dans la pandémie. Et les chercheuses se démènent pour y remédier. Selon les maisons d'hébergement francophones en Ontario, y compris à Toronto, depuis le début du confinement, au mois de mars dernier, on observe une hausse de 20 à 30% des cas. Ça en fait beaucoup. Le 25 novembre, l'Office national du film a lancé un documentaire en ligne afin de souligner la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Sortir de l'ombre, de gentil assis, un documentaire percutant produit à l'ONF par Nathalie Cloutier. Notre invitée est Gentille Assis, justement, d'origine togolaise. Elle est autrice, réalisatrice. Elle tourne en 2009 son premier film documentaire, Ichombi, et produit et réalise dans la même année le court-métrage de fiction Bidman, l'espoir d'un village qui a remporté le prix du jury du Festival international du cinéma Vue d'Afrique à Montréal. En 2010, elle signe le documentaire Akapema qui jette les bases du long métrage Le Rite, la folle et moi. Sorti en 2012, ce dernier remporte un vif succès et le prix du public du meilleur film documentaire au Festival Cinéma d'Afrique à d'Angers en France. Afin de parfaire son parcours de cinéaste, elle obtient une maîtrise en cinéma à l'Université du Québec à Montréal en 2013. Sortir de l'ombre et son premier film avec l'ONF. Privilégiant le registre de l'intime, son œuvre aborde avec audace des enjeux tabous qu'elle n'hésite pas à nommer et à raconter. Si sa caméra braque sans concession son objectif sur les problématiques et les maux sociaux, sa plume, tout en sensibilité, traduit sa vision résolument positive de l'humain. Gentille Assis est aussi directrice de production chez Production Déferlante. Nous l'appelons tout de suite.
Comment dealer avec notre éducation d'Africaine qui immigre en Occident et arriver à matcher deux cultures, deux styles de vie? J'ai même pas réalisé que j'étais en danger. C'est ça le pire. Tu n'as pas à subir ça. Pour rien au monde, un mariage, c'est pas une fin en soi. J'ai appris à demander de l'aide.
Qu'est-ce que je veux? Pourquoi est-ce que j'ai fait le choix qui m'a amené à être aujourd'hui ici? Quelles sont toujours mes valeurs, mes principes? Où est-ce que je veux aller?
La séparation, c'est dur. Parce qu'on espère encore que ça va marcher. Mais je l'ai fait parce que c'était devenu une question de vie ou de mort.
La culture est complètement différente. Et une adaptation s'impose. On n'a pas de choix.
Ma vie, ce n'est plus là-bas. Chez moi, mon chez moi actuel, c'est ici. Il y a des garçons et puis il y a des hommes.
C'est ça.
Il y a des filles et puis il y a des femmes.
Mm-hmm.
Nous, on est des femmes. Ça ne fait que commencer.
Allô?
Oui, bonjour. Je pourrais parler à Madame Assis, s'il vous plaît?
Oui, c'est elle.
Bonjour, ici Eric Adair de CUTFM. Vous avez quelques minutes à m'accorder? Alors, malgré les circonstances du moment, c'est tout un honneur de vous recevoir pour la première fois à notre antenne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on aborde très brièvement votre parcours en tant que passionnée de cinéma.
Depuis petite, je savais que je voulais faire le cinéma. Donc, juste après mon diplôme universitaire, j'ai fait une formation en réalisation à l'école de l'USAS, à l'école de documentaire de l'USAS. Puis au Sénégal aussi, j'ai fait des formations, des ateliers d'écriture et de réalisation. Puis j'ai réalisé deux documentaires et une fiction avant d'arriver, d'immigrer au Canada en 2009. Puis en 2009, j'ai fait une maîtrise en cinéma à l'UQAM. Et puis voilà, je suis à mon troisième long-métrage documentaire avec l'ONF qui est sorti de l'ombre. Voilà.
C'est tout un bonheur pour vous. D'ailleurs, c'est un grand jour pour vous cette semaine. Hein?
C'est sûr. Aujourd'hui, je fête mes 10 ans de... en tant qu'immigrante. Donc, pour moi, oui,
ouais.
C'est un signe du ciel, oui.
Alors, sans rentrer dans les détails politiques, culturels, économiques, ouais, du Togo, de votre pays, mm-hmm, d'origine, mais un jour, vous avez dit quelque part, les Togolais sont des cinéphiles avertis, mais ils sont très exigeants. Tant que les productions togolaises ne seront pas de qualité, ils n'arriveront pas à s'imposer. Par contre, les cinéastes togolais n'ont pas de moyens, ils n'ont pas la chance d'être formés et techniquement, financièrement, ce n'est pas possible. Donc, si je comprends bien, l'État togolais n'a rien mis sur place pour aider les cinéastes.
Oui, en tout cas, de moi, ma perspective, il y a très peu de moyens. L'État togolais n'a pas conscience de la richesse que peut apporter le cinéma dans un pays. Donc, c'est un peu comme le maillon faible des gouvernements au fil des ans. Et même aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des cinéastes qui font des efforts sur le terrain, mais quand on compare les efforts des gouvernements et des institutions dans les autres pays de l'Afrique, je pense que le Togo fait partie des derniers, malheureusement.
Mmh. Alors, bon, revenons à nos moutons. Votre long-métrage documentaire sorti à de l'ombre est lancé gratuitement à partir de cette semaine. Première mondiale, en exclusivité sur onf.ca, disponible partout au Canada depuis le mercredi 25 novembre, date de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Il est rare pour une cinéaste afro-canadienne et francophone du Canada de jouer dans la cour des grands. Les femmes victimes de violences
On en parle depuis la création de notre émission, soit plus de 33 ans déjà. Et nous avons vu une certaine évolution dans certains milieux depuis 33 ans. Mais là où le bât blesse, c'est le manque de visibilité de projets ciblant les femmes canadiennes d'origine africaine. Comment, comme vous le savez, le sujet est encore malheureusement tabou dans certaines communautés africaines. Quel est l'objectif premier de votre film « Sortir de l'ombre »
Comme vous l'avez dit, effectivement, moi, le malaise que j'ai toujours eu depuis que je suis au Québec, c'est que j'entends parler de la violence conjugale, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a une frange de la population qu'on ne représente pas assez. Et effectivement, les femmes qui m'entourent, que je connais comme des immigrantes comme moi, elles ont une certaine réalité. Celles qui vivent la violence conjugale vivent une coche de difficultés que ce qu'on voit et on entend sur les médias. Puis il y a certains stéréotypes qui font que quand les peu de fois où on parle de ces femmes-là, les discours sont empreints de stéréotypes, ce qui fait qu'on ne touche pas précisément leur réelle problématique pour pouvoir les aider, déjà les comprendre et les aider. Donc pour moi, il était important déjà de permettre à ces femmes-là qui sont capables de parler d'elles-mêmes, justement, de prendre la parole et de dire leur malaise et de venir surtout avec des pistes de solutions. Donc, c'est des femmes intelligentes, battantes, et pour moi, il était important de me dire, mais c'est des femmes qui sont capables aussi de prendre part au débat public pour aider et amener des solutions. Donc, c'était mon premier objectif. Et l'autre chose aussi, c'est de dire, j'ai en face de moi des femmes qui ont compris que briser le tabou est très important pour commencer par régler le problème. Donc, cette prise de parole-là, pour moi, m'a permis de présenter aussi l'idée que il y a de l'espoir. Donc, Sortir de l'ombre, c'est ça, c'est un film d'espoir qui démontre à travers le cheminement de Christiane et Aïssata qu'il est possible de s'en sortir. Il suffit de prendre la parole, de demander de l'aide et d'aider aussi d'autres personnes. Et pour moi aussi, c'est une façon aussi de dire, c'est un phénomène qui existe, on ne peut pas le mentir, tout le monde le sait maintenant, mais il faut qu'on accepte aussi que personne n'est à l'abri. Ouvrons les yeux, soyons tous conscients pour chacun s'entraider à se sortir de ce phénomène-là qui gangrène pour les futures générations. Ouais.
Dans une de mes vies antérieures, en tant que fonctionnaire à la fonction publique de l'Ontario, j'ai pu travailler en étroite collaboration avec plusieurs organismes qui militent pour les droits des femmes victimes de violences conjugales. Et à travers la province, nous avons établi tout un réseau de dialogues, de projets. Mais il y a beaucoup d'obstacles, malheureusement, dont font face les femmes immigrantes. Est-ce que vous avez collaboré, travaillé ou peut-être revu des rapports qui ont été réalisés dans le passé avant de monter votre projet?
Oui, pendant que je préparais le projet, déjà à l'étape d'écriture de recherche, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai vu des chiffres en statistique. Je ne me positionne pas comme spécialiste pour donner des chiffres. Effectivement, quand on regarde les statistiques, c'est ce qui est publié, c'est sûr que la violence conjugale sur le plan national, c'est un problème et les femmes sont en majorité victimes et les immigrantes le vivent beaucoup. Et moi, c'est justement ces chiffres-là qui m'ont amené à me poser la question du pourquoi ce nombre plus élevé de violences conjugales dans les foyers d'immigrants. Et c'est ce qui m'a amené sur la piste d'aller nuancer pour me dire, est-ce que c'est la culture, est-ce que c'est tout le processus d'intégration quand les immigrants arrivent ici. Et ça m'a amené à la conclusion que au-delà de ce qu'on pense par rapport aux stéréotypes, on pense que les femmes immigrantes ben, si elles vivent la violence conjugale, c'est juste parce qu'elles ont été élevées dans un environnement où la femme doit doit se taire et être soumise. Mmh. Ce qui n'est pas forcément le cas parce que les femmes, la plupart qui arrivent ici, c'est souvent des immigrantes et travailleurs qualifiés, donc qui ont déjà un niveau d'études et un niveau professionnel assez élevé. Et c'est souvent des femmes déjà émancipées dans des couples où est-ce que même les hommes ont compris que la femme a sa place dans le foyer. Mais quand ils arrivent ici et qu'ils sont tous sous pression dans un environnement où l'extérieur devient un peu un champ de bataille pour eux, et cette pression-là vient influencer le rapport des couples, la dynamique de famille et qui les amène à s'enlister dans tout le cycle, le cercle vicieux de la violence conjugale. Mais c'est cette nuance-là que je ne vois pas ressortir dans les enquêtes et dans les propos même des grandes institutions. J'ai cherché désespérément cette nuance-là qu'on ne fait pas. Et c'est ça qui m'a amené à vouloir démontrer dans le film que non, c'est des femmes intelligentes, c'est des femmes cultivées. Donc la violence conjugale, si elle le subit, c'est pas forcément parce que c'est des femmes illettrées. Elles ont toujours été présentées comme ce sont des illettrées qui sont à risque dans la population canadienne, ce qui n'est pas forcément vrai.
Une très belle initiative de l'ONF d'ailleurs qui va aussi miser sur la jeunesse. Je pense que les 14 à 18 ans vont aussi avoir des ateliers pour discuter de ce phénomène. Mais moi, ce que j'avais remarqué dans le passé, c'est que dans certaines communautés africaines, je dis bien dans certaines communautés africaines, il y a le patriarcat qui malheureusement existe et c'est encore très fort. Et la femme, donc, est réduite au silence bien souvent.
Oui, effectivement, c'est une façon politique de le dire. Mais moi, j'ai été élevée, je parle pour moi, puis je parle des communautés qui sont proches de moi. J'ai été élevée dans un environnement où, même en milieu traditionnel, j'ai été une initiée. Et à mon initiation de jeune fille, ce qu'on m'a appris, c'est que, en tant que femme, j'ai ma place et c'est moi qui tiens le foyer dans un certain sens. Et je suis libre de dire non et de protéger mon corps. Donc, quelque part, je me dis, oui, on dit dans le milieu africain, dans certaines sociétés, le patriarcat prend le dessus. Mais quand on approche mieux, quand on comprend comment fonctionne le système traditionnel, on comprendrait que la femme est à sa place. Et il y a une façon politique de donner la place, l'autorité à l'homme. Mais au fond, le proverbe qui dit « derrière un grand chef, il y a toujours une grande femme, il y a toujours une femme forte », moi, c'est ça qui prend plus le sens dans les pays d'Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Peut-être je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais généralement en Afrique de l'Ouest, la femme, on donne de la place à la femme. Donc ce stéréotype-là, je pense que quelque part, c'est ça qui vient poser problème à penser systématiquement que c'est des systèmes patriarcales, donc la femme n'a pas sa place.
Oui. Sortir de l'ombre, un documentaire percutant produit par l'ONF, disponible gratuitement en ligne partout au Canada. Gentille, Assis, la réalisatrice, est notre invitée aujourd'hui. Alors si on entrait dans les coulisses de production, de l'écriture, au montage et à la réalisation.
L'écriture, ça a été tout un cheminement pour moi, des découvertes, des surprises, des émotions. Parce que quand j'ai commencé par penser à ce sujet-là, ça a pris un an parce que j'ai commencé de l'idée de présenter des femmes justement fortes, battantes, qui se débrouillent dans un Québec où, en tant qu'immigrante, rien ne leur est donné gratuitement, rien n'est facile pour elles. Et c'est dans cet exercice-là que je me suis rendu compte que dans ces femmes-là, au-delà de leur combat à l'extérieur, c'est des femmes qui vivent la violence conjugale. Et j'ai dû accepter de me concentrer sur ce qu'elles ont vécu, ces violences conjugales, puis de me concentrer sur leur désir de guérir. Donc, toute l'écriture, finalement, s'est concentrée sur le cheminement de guérison de ces femmes-là. Puis quand j'ai commencé par tourner, j'ai travaillé sur une période de un an, justement, pour suivre ce cheminement de la prise de parole jusqu'à ce qu'on voit les effets de cette prise de parole-là et les effets aussi de la solidarité féminine dans ces cas de figure. Donc, ça a été très difficile émotionnellement. J'ai dû oublier aussi des fois ma casquette de réalisatrice pour être juste une femme, peu importe, c'est sans tenir compte de mes origines et garder assez d'objectivité pour que le film ne soit pas un procès, parce que ici on ne fait pas le procès de qui que ce soit, ce n'est même pas un procès de genre, c'est vraiment un cheminement de guérison et d'espoir, de lumière que j'ai voulu mettre de l'avant. Puis j'ai mis une petite touche de ma vision de réalisatrice qui veut que, peu importe les origines, quand on laisse parler les émotions, il n'y a pas de frontières. Tout le monde est doté d'une âme, d'un esprit, et que les émotions, quand on communique avec les émotions, tout le monde se sent concerné, tout le monde les reçoit pareil. Et j'espère qu'en regardant le film, n'importe qui est devant son écran va ressentir les émotions que j'ai voulu transmettre.
Alors le tempo est très différent, je réalise que c'est un film qui parle beaucoup des profondeurs hein, et aussi d'une certaine souffrance. En regardant un petit peu votre profil de cinéaste, diriez-vous que vous êtes une cinéaste engagée?
Je laisserai les gens le décider. Je ne me vois pas comme une cinéaste engagée parce que, bizarrement, je n'aborde pas un sujet avec la prétention de proposer quelque chose ou d'imposer mes idées. Moi, je vais de façon très naïve en me disant il est important de lever le voile sur cette problématique ou de juste poser la caméra et de laisser les choses se dire, les choses se démontrer. Donc, est-ce que de là, on pourrait, dans cette façon de procéder, on pourrait dire que je suis une cinéaste engagée? Et c'est sûr que quand c'est des sujets aussi sensibles qui m'attirent, peut-être que derrière mes intentions, il y a aussi de l'engagement. C'est certain, comme je l'ai dit au début, j'ai été quand même élevée et initiée comme chose sur le principe qu'en tant que femme, j'ai ma place dans la société et en tant que femme mère au foyer, j'ai aussi mon point de vue à donner. Puis en tant que femme et mère, j'ai la charge éducationnelle des jeunes qui m'entourent, de ma descendance. Donc je fais ma part, je prends ma part de responsabilité et quand je prends ma caméra, il y a toujours ça. Je dois me rappeler que j'ai ma part à faire pour que nos descendants aient une meilleure éducation. Donc voilà.
Est-ce que c'était difficile de recruter vos personnages?
Les personnages, je ne les ai pas recrutés. Ça s'est placé tout naturellement parce que pour moi, c'est des femmes que j'admirais déjà avant même d'avoir l'idée de faire le film. Je les admirais, elles faisaient partie de mon entourage proche. Est-ce que ça a été difficile de les convaincre de faire le film? Non, parce que elles avaient soif de parler. Elles avaient cette envie-là de prendre la parole. Et elles m'ont encouragée, c'est plutôt elles qui m'ont encouragée à travailler avec elles sur le film. Et moi aussi, je me suis laissée convaincre, puis j'ai embarqué dans l'aventure.
Comme vous le savez sans doute, il est difficile et très compliqué, encore en 2020, pour des cinéastes, journalistes, artistes noirs au Canada, de se tailler une place au soleil au Canada. Parlez-nous un peu de votre rencontre avec l'ONF.
Je fais partie des chanceux. Quand je dis chanceux, ça fait quand même... Quand j'ai rencontré pour la première fois la productrice Nathalie Cloutier à l'ONF, j'étais, à mon 7e année d'immigration. Et pendant les 7 ans, j'ai dû avaler des couleuvres, si on peut parler ainsi, en milieu professionnel. Et chaque fois que je lève le doigt pour dire « je suis réalisatrice, j'aimerais faire ceci dans des boîtes de production », on m'a toujours rappelé que je viens d'ailleurs et ma voix ne compte pas. Donc quand j'ai rencontré Nathalie Cloutier à l'ONF, c'est la première personne qui s'est intéressé à mon travail et qui m'a encouragé à proposer un projet à l'ONF. Donc ça s'est passé après très vite parce que quelques semaines après, je suis venue avec une proposition de projet de documentaire et elle a trouvé la bonne façon pour me guider, pour m'aider à convaincre toute l'équipe de l'institution. Puis je me suis rendu compte que il suffit qu'une personne donne la chance et quand on découvre nos talents, les autres embarquent. Donc l'ONF a été une institution assez merveilleuse, assez ouverte d'esprit pour me permettre de faire un film qui me ressemble, un film qui va un peu avec ma vision du monde. Et ça, cette liberté-là, j'ai été impressionnée. Je me dis, heureusement qu'il y a une institution comme ça pour permettre qu'il y ait une pluralité d'expression dans ce Québec-là.
Et je dois ici vous raconter une petite histoire que nous avons vécue à la radio dans les années 90, lors d'un entretien avec un cinéaste d'origine égyptienne qui était à Toronto depuis très longtemps mais n'arrivait pas à trouver son premier contrat, son premier travail en tant que cinéaste. Eh bien, c'est l'ONF qui l'avait embauché à l'époque et c'est grâce à l'ONF qu'il a connu un succès dans certaines télévisions, maisons de télévision et boîtes de production. Oui. Et donc, on voit qu'il y a quand même des individus dans certains milieux qui sont assez ouverts d'esprit. Et c'est ça l'avenir du Canada, n'est-ce pas? C'est de composer avec les nouveaux talents.
Oui, effectivement. C'est pour ça que moi, la première journée où j'ai eu l'information que le film sera lancé, quand j'ai envoyé l'information sur Facebook, je n'ai pas pu m'empêcher de nommer ceux qui ont fait des efforts. Oui. En me disant, j'aimerais que d'autres personnes lisent cela. Ceux qui sont dans d'autres boîtes de production et les chaînes de télévision aussi, pourquoi pas les salles qui le voient, qu'il suffit qu'une personne ait la volonté de donner la chance et les autres vont embarquer. Parce que ce que moi j'ai senti, c'est que il y a certaines personnes qui sont assez ouvertes d'esprit, mais n'osent pas, sous prétexte qu'ils ne veulent pas se ridiculiser auprès de leurs collègues, donner la chance à des immigrants comme moi qui veulent proposer d'autres choses. Donc, moi je pense que dans toutes les institutions, il faudrait qu'il y ait des individus comme ça qui ouvrent des petites portes pour permettre qu'on découvre comment ces artistes-là. C'est vrai, c'est important. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on pourra nous permettre de démontrer ce que nous sommes capables d'apporter sur le plan culturel au Canada. Nous avons des richesses que nous portons à nous, que nous apportons ici, et qu'on oublie la couleur de notre peau, qu'on oublie, qu'on arrête de penser que quand on vient d'Afrique surtout, on n'a pas les compétences. Il faut qu'on comprenne que nos diplômes et nos expériences sur le terrain en tant qu'artiste comptent aussi quand on arrive ici, qu'on ne soit pas tout le temps obligé de reprendre à zéro au point même d'abandonner et de devenir juste des caissiers à l'épicerie. Je ne crache pas sur ces postes-là, mais je pense que si je depuis enfant, j'ai développé ce désir-là de devenir cinéaste, et c'est parce que c'est ce que je sais faire. Je sais raconter des histoires. Mais comme l'enlève parce que je viens dans un pays où on ne reconnaît pas ma capacité à vivre de mon art, c'est juste comme un gâchis. Et qu'on arrête ce gâchis-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes talentueuses qui se retrouvent un peu à faire ce qu'ils n'étaient pas nés pour faire dans ce pays-là.
En tout cas, vous êtes un modèle pour la future génération. Alors rapidement, nous n'avons pas beaucoup de temps, une auditrice nous écrit, il y a une libération de la parole chez la jeune femme africaine. En revanche, pour nos mères, ce n'est pas le cas, car elles restent encore attachées à des valeurs et des coutumes qui pourtant les desservent. Votre réaction, rapidement ?
Oui, pour moi, je pense que c'est justement nous, cette génération et la génération prochaine, c'est à nous les femmes aussi de prendre la parole pour encourager nos mères que non, c'est possible d'oser s'ouvrir l'esprit et arrêter d'avoir peur d'être jugé par la société. Donc nous devons donner l'exemple à nos mères et elles vont suivre. Elles veulent que notre bien, elles veulent que leurs enfants soient heureux. Donc je pense que cette responsabilité-là nous revient.
Oui. Sorcier de l'ombre, un documentaire percutant produit par l'ONF, disponible gratuitement en ligne partout au Canada. Madame Gentil Assi, d'ailleurs, vous retrouverez tous les liens sur notre site popourichaud.com. On pourra parler avec vous pendant des heures et des heures, mais j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir très prochainement à cette antenne. Je vous remercie infiniment. Je remercie aussi toute l'équipe de l'ONF qui ont facilité cet entretien et qui aussi vous appuie dans votre démarche. Et donc, je vous souhaite quoi ? Bonne chance dans vos entreprises et que la force soit avec vous.
Merci à vous et bonne journée à vous. Merci pour l'invitation.
Au revoir.
Au revoir.
Car dans un bocal, manque du pays natal. Mon horizon pâle, bancal que des verticales. Comme au carnaval, j'imite les étoiles. Comme couverte de pétales, instinct animal, ancestral, camoufler le mal. Mais je veux te parler et me confier, verser les mots. Je veux te parler et respirer. Y'en a marre d'avoir le cœur beau, me délivrer et m'évader. Laisser les mots me révéler et m'élever. Y'en a marre d'avoir le cœur barré.
FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Kader. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM. Chaque dimanche, de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne de la Faculté d'Éducation de l'Université de Toronto, le Département d'études langagières campus de Mississauga, la Chaire de Recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prise de Parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com.
Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
Tout ça, monsieur, a fait le bullshit.
Actuellement, cherchez les sénateurs. C'est pour jouer deux tiers là dans eux qui t'annoncent dans le palais là. Ils ne sont pas capables pour venir là pour monter. Tout ça, monsieur, a fait le bullshit. Mais je trouve que c'est tout pourri. Tout un journaliste, ou par contre ça bullshit là, c'est gros nul. Tout ça, monsieur, a fait le bullshit.
Vous écoutez Popourri Show, le magazine de la francophonie sur la radio campus universitaire de Toronto. 34 ans déjà. Vers 12h35, nous accueillerons le ministre de la Santé en France. Il nous donnera peut-être quelques consignes sur les stations de ski. Si vous aimez le sport d'hiver, alors soyez-y. Puis une présentation de la chanteuse tunisienne Nawal Ben Rahem. Et oui, quand musique et poésie ne font qu'un, par-delà les rives de la Méditerranée, elle présente son nouvel album Délivrance, sorti en septembre de cette année. C'était à TV5 Afrique. Pour nous joindre tout au long de l'année, popourri@cut.fm. Pour nous télécharger nos émissions, popourrishow.com. Et oui, notre prochain invité n'a pas besoin de présentation vraiment. Il est sociologue québécois d'origine haïtienne, conseiller stratégique indépendant du service de police de la ville de Montréal. Il est chroniqueur à Radio-Canada et à CUTFM. Il s'appelle Frédéric Boiron. Il vient d'ajouter un troisième titre à sa série « Mythes, vérités et mensonges sur la démocratie ». Et le 10 octobre dernier, il a lancé son dernier livre « Inconduite, tweets et autres bullshit d'une élite en faillite ». C'est lui qui le dit, madame, monsieur. Et oui, avec ce troisième livre sur l'état de la démocratie dans le monde, Frédéric Boiron détrône ses jacasseurs qui jappent à des discours violents, haineux, avilissants. Il cramponne sans trêve ces abrutis qui construisent leur fonds de commerce sur l'humiliation et la misère des autres. Il vient solidement tacler ces capons qui font la guerre à la paix. Chaque texte de ce livre est un réquisitoire au nom de celles et ceux qui sont coincés entre l'indignité et l'embarras, entre la désillusion et les déceptions, entre l'astuce et la resquille, entre la débrouillardise et la mendicité, entre l'incertitude et le pétrin, entre la débine et les combines, entre la détresse et le blasphème, entre la faillite et l'hystérie. Dans « Inconduite, tweets et autres bullshit d'une élite en faillite », Frédéric Boiron navigue avec élégance dans ce style d'écriture qui lui est propre. Il propose des sujets inédits, instructifs et pertinents. Il les livre avec sérieux, sarcasme, avec rigueur et ironie, avec précision et dérision. Il est méthodique et satirique. Frédéric Boiron, c'est un personnage décapant, un auteur percutant, un sociologue plus infréquentable que jamais. Allez, on l'appelle tout de suite.
Bonjour.
Oui, bonjour. Je pourrais parler à M. Frédéric Boiron, s'il vous plaît.
Oui, c'est moi.
Ici Eric Adair de CUTFM. Bonjour.
Ça va bien, Eric?
Oui, COVID-19 oblige. Bienvenue dans notre petit monde virtuel. Alors, tout d'abord, de la part de toute l'équipe, un grand merci pour la copie de votre dernier livre qui est arrivé à bon port. Inconduit, tweets et autres bullshit d'une élite en faillite.
Comme on dit chez moi, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Vous écorchez tout le monde, ou presque. Vous donnez un petit avant-goût aux auditeurs. Pour donner un petit avant-goût aux auditeurs, vous écorchez au vif François Legault, Premier ministre du Québec, l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, quelques titres qui ne laissent pas les lecteurs indifférents, l'apologie du viol, console-toi, ton fils joue aux fesses, la rigueur scientifique, dites seulement une parole et nous serons guéris, l'égalité des chances, habille-toi comme du monde. On dirait que vous voulez à tout prix régler des comptes avec certains de ce monde. Ai-je tort?
Non, mais vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Parce que pour moi, il y a des gens qui nous racontent n'importe quoi. Je disais dernièrement qu'il y a eu cette idée depuis que Donald Trump est arrivé qu'il y avait des fake news et tout ça. Et je dis, il n'y a pas de fake news. Il n'y a pas de nouvelles arrangées. Les nouvelles sont là parce qu'elles font partie d'une propagande. Donc, on est en train de nous raconter des choses et notre responsabilité comme citoyen, c'est de dire, nous vous avons bien entendu et nous allons faire nos recherches pour vous mettre au défi de prouver ce que vous avez dit. Alors, pardon, c'est notre responsabilité comme citoyen. Si je règle des comptes, c'est pas seulement avec ces personnalités, c'est aussi avec moi-même. C'est aussi avec nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent maintenant de dire, mais vous ne pouvez pas tout prendre ce qu'ils vous disent. Il faut les remettre en question. Et c'est parce que nous ne les remettons pas en question qu'ils se permettent de nous raconter du n'importe quoi.
Mais alors, on voit qu'un des ex-présidents français est dans le collimateur ces jours-ci. Il me semble que vous avez même écrit au président français Emmanuel Macron. Est-ce qu'il vous a répondu?
Cabinet du président Emmanuel Macron. C'est une réponse qui n'est pas, je dirais, ce n'est pas un accusé réception, c'est une invitation au dialogue autour du sujet. Alors, j'ai écrit au président français pour lui dire qu'il y a des ministres du gouvernement français précédent qui sont encore vivants, dont Édith Cresson, et je lui demande de faire ce qu'il faut pour amener ces gens devant les tribunaux. Parce que dans les années 80, il y a un produit, un herbicide qui s'appelle le chlordécone, qui a été interdit aux États-Unis, interdit en France métropolitaine, mais qu'on a continué à utiliser à la Martinique et à la Guadeloupe. Ce que ça donne aujourd'hui, et c'est prouvé, le chlordécone a créé à la Martinique et à la Guadeloupe une épidémie de cancer de la prostate. À la Martinique et à la Guadeloupe, quand on réunit ces deux populations, c'est là où il y a le plus grand taux de cancer de la prostate sur l'ensemble de la planète. Mais ça a été prouvé que c'est l'utilisation du chlordécone qui l'a créé. Maintenant, les Martiniquais, le chlordécone a été utilisé à ce moment-là, mais il s'est infiltré dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. Ah. Et c'est pour ça que je dis au président français, chaque personne à la Martinique qui mange, qui boit de l'eau, s'empoisonne. Et il faut faire quelque chose. Et nous, ces informations-là, nous le savons, c'est disponible pour nous tous de savoir ça. Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un se lève et dise ça. Et ce que je dis surtout au président français, c'est que la prostate est un organe essentiel dans la reproduction humaine. Donc, quand on a cette problématique, on est pratiquement face à un génocide. On est pratiquement face à un génocide parce que les Martiniquais, à un moment donné, ne pourront plus se reproduire.
D'ailleurs, dans un certain état, aux États-Unis, il y a eu aussi un problème d'un état avec l'eau contaminée. Et là aussi, ça a été tout un scandale, n'est-ce pas?
Mais même ici au Canada, nous avons eu des problèmes d'eau contaminée. Ici au Canada, nous avons des problèmes. Ici au Canada, il y a des communautés amérindiennes qui n'ont pas d'eau potable. Il faut qu'ils charrient l'eau tous les jours. Il y a des choses qui sont inadmissibles. On est en train d'empoisonner les gens et notre responsabilité, c'est de le dire.
Oui.
C'est de les mettre au défi.
Inconduite, tweets et autres bullshit d'une élite en faillite, mythes, vérités et mensonges sur la démocratie. Quand on regarde un peu de ce qui se passe chez nos voisins du Sud ces jours-ci, en lisant votre livre, on est obligé quelque part de vous croire.
Oui, mais vous savez, j'ai envie de dire aussi que je n'invente rien dans la mesure où tout était là. Tout était visible. Vous savez, on parle des impôts de Donald Trump, mais c'était connu déjà. C'est pas pour rien qu'il veut pas les montrer. C'était déjà connu. Ce bonhomme avait, tout le monde savait que quand il était propriétaire de Miss America, Miss Universe, qu'il tripotait les candidats. Tout le monde savait qu'il avait une fondation qui n'était utile que pour passer des sous à sa famille, alors que la fondation ne récoltait pratiquement pas d'argent. C'était une coquille vide. Mais tout le monde savait ça. Et vous savez ce qui est encore plus dramatique? C'est de voir que Donald Trump, qui a refusé de présenter ses impôts, et c'est là que je vous dis, je règle mes comptes aussi avec mes lecteurs et mes lectrices, parce que Donald Trump, qui a refusé de présenter ses impôts, on a démontré qu'il avait payé une porn star pour pouvoir cacher ses aventures avant les élections avec l'argent de la campagne. Qu'il ait une aventure avec une porn star, c'est pas un problème. C'est qu'il a utilisé l'argent de la campagne pour payer cette porn star. Mais tout le monde savait ça. Mais il y a plus de 70 millions de personnes qui ont quand même voté pour lui.
Mais comment faire justement, M. Boiron, pour contrer cette politique de désinformation? Il y a quand même 73 millions d'Américains qui appuient Trump aujourd'hui.
Ben voilà, c'est là la nécessité. Vous, moi, qui sommes plus dans des médiums alternatifs, hein, c'est là notre responsabilité de parler. Moi, je publie à compte d'auteur. Il y a une raison derrière ça. C'est que personne ne peut me dire « enlève ça parce que ça, on ne pourra pas vendre ça, enlève ça parce que c'est pas bien, enlève ça, on va avoir des problèmes avec Trump, avec Israël, avec Sarkozy. » Personne ne me dit quoi écrire, personne ne me dit quoi dire. Alors ce sont les médias alternatifs. On a vu aux États-Unis avec l'élection de Trump, on a vu à quel point que les médias ne sont pas objectifs. Et on a vu comment Fox est centré sur Donald Trump et CNN est anti-Trump. Bien que je ne suis pas un gros fan de Trump, mais je ne suis pas d'accord qu'un média soit fondamentalement anti-Trump parce qu'il n'y a plus d'objectivité dans l'information. On ne me donne pas la chance de réfléchir. On ne me donne pas l'information. Il n'y a pratiquement pas un invité chez CNN qui fait partie de l'équipe Trump et il n'y a pas un invité chez Fox qui ne fait pas partie de l'équipe Trump. Donc, il n'y a pas d'objectivité. Oui. Parce que tout ça fait partie d'un capitalisme qui voit à s'enrichir en contrôlant une information.
En tout cas, vous n'avez pas votre langue dans la poche. Un livre très facile à lire. Hein. D'ailleurs, c'est aussi un cadeau qu'on pourrait offrir à nos amis pour les temps des fêtes, hein, n'est-ce pas? Je vous invite, madame, monsieur, à visiter le site web de notre invité, frédéricboiron.com. Qui est l'auteur de la page couverture?
La page couverture a été créée par Marie-Denise Douillon. C'est une artiste multidisciplinaire de réputation internationale. Alors, je lui ai demandé, j'ai dit, quelque chose qui pourrait vous intéresser de faire la page couverture d'un livre d'un auteur qui est assez infréquentable d'une certaine manière. Donc, je prends toujours les choses avec des pincettes quand j'approche les gens parce que je leur dis, écoutez, je dis ce que je veux. Donc, quand vous prenez un risque réputationnel avec moi, est-ce que vous êtes prête à faire ça? Est-ce que vous êtes prête à vous dire que, bon, ça se peut qu'un jour, les gens disent, bon, ce gars-là, on n'en veut pas. Et j'ai rencontré, moi, sur mon chemin, des gens qui ont dit, non, c'est ça qu'on veut. On veut appuyer des choses comme ça. On veut appuyer un autre discours. On est fatigué du discours dominant, du discours qui est toujours le même et qu'on entend les choses. On entend quelque chose de différent, on veut appuyer ça. Donc ce sont des gens comme Marie-Denise Douillon avec cette page couverture qui m'a appuyé. Il y a Damila Ferrière qui a fait la préface de mon premier livre. Il y a Madame Louise Arel qui est ancienne ministre, ancienne présidente de l'Assemblée nationale du Québec, qui m'a appuyé aussi avec une préface. Donc je suis très très honoré de voir qu'il y a des gens qui ont envie de dire ce que je dis. J'ai la possibilité de le dire, j'ai les moyens, j'ai les outils, j'ai la capacité de faire certaines recherches et d'articuler les choses d'une certaine manière. Et ces gens viennent me confirmer que ce discours a sa place.
Oui. D'ailleurs, il y a un auditeur qui m'a dit c'est peut-être une bonne façon pour contrer les radios poubelles au Québec.
Mais voilà, parce que les radios poubelles, c'est justement ça de la propagande. Les radios poubelles tiennent un discours qui rejoint une frange de la population qui n'avait pas l'intention de penser comme ça, mais qu'on amène à penser comme ça. Tout le discours identitaire qui est devenu non plus un discours identitaire, mais un discours raciste, il y a des gens qui colportent ça, et ils les colportent pourquoi ? Parce que ça fait vendre. Ça fait vendre des heures de publicité, ça fait vendre des journaux, ça fait vendre des magazines, ça fait vendre des clics. Et les gens vont comme ça et ils disent des choses auxquelles ils ne croient même pas. Oui. Mais aussi des choses extrêmement dangereuses.
Oui, en effet.
Extrêmement dangereuses. Oui. Vous savez, dernièrement, les gens peuvent aller sur mon blog. Hein, j'écris des textes sur mon blog, c'est gratuit. Vous savez, tout le débat qu'il y a eu autour de la liberté d'expression et que Emmanuel Macron dit que la liberté d'expression est sans limite. Mais c'est d'un ridicule de dire des choses comme ça, parce qu'en France même, la loi Guesso dit qu'on ne peut pas nier l'existence de l'Holocauste. Donc, Dieudonné, Alain Soral et des gens comme ça ont payé le prix, à juste titre, ils ont payé le prix pour avoir nié l'existence de l'Holocauste. Et ça, c'est dans la loi. Donc, la liberté d'expression est limitée. Au Canada, le code criminel dit qu'on ne peut pas faire l'apologie du terrorisme. Donc, la loi nous interdit de dire certaines choses. Donc, la liberté d'expression est limitée.
Oui. Hein? Écoutez, ça fait bientôt 40 ans que je suis au Canada. J'ai rarement vu un noir francophone par-dessus le marché, qui analyse avec un esprit critique, mais avec brio, l'actualité nationale et internationale. Vous avez été très actif ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Un article qui vous a fait sursauter, je pense, c'est Radio-Canada qui a retiré de sa plateforme web un épisode de La Petite Vie, mettant en scène un personnage africain joué par Norman Brathwaite, un comédien très connu dans la région de Montréal, mais au Québec, en évoquant qu'il pourrait être mal compris et ressenti comme une insulte par une partie de l'auditoire. Et votre réplique ne s'est fait pas attendre. Vous avez écrit, donc, d'après la direction de Radio-Canada, les singeries qui ne sont pas acceptables aujourd'hui l'étaient dans le passé. J'aimerais bien savoir qui a été consulté pour les aider à accoucher d'une absurdité aussi insensée et déconnectée de la réalité. Il y a sûrement moyen de trouver une excuse qui ne donne pas l'impression qu'on prend le monde pour des valises. Si au moins il faisait un petit effort, j'aurais pu faire semblant d'être cave. Signé Frédéric Boiron.
Et voilà. Quel est le message que nous donne Radio-Canada? De dire qu'il y a quelque chose. Moi, je vis au Québec depuis 50 ans. Depuis 50 ans, je vis au Québec. Des discours comme ça. Dans des émissions de télévision, dans des émissions de radio, où on utilise des mots qui aujourd'hui on ne veut à peine prononcer, moi j'ai entendu ces mots-là toute ma vie. Moi je me rappelle, je suis arrivé à Montréal-Nord en août 1970, jusqu'à ce que je quitte Montréal-Nord pour aller vivre à Rivière-des-Prairies, dans un quartier plus italien. Eh bien, à Montréal-Nord, je ne me rappelle pas d'être sorti sur la rue de 1970 à 1976, je ne me rappelle pas une journée que je sois sorti sur la rue sans recevoir un insulte raciste.
Ah oui,
je ne
hein.
me rappelle pas. D'accord? Alors, ces mots-là qu'on ne veut plus entendre aujourd'hui, les enfants qui m'insultaient à l'école, Ils les ont appris de où? Ils les ont appris à la télé. Leurs parents les ont appris à la télé. Vous savez, ce que je dis, moi, ce n'est pas, on ne va rien régler si on croit qu'on va se mettre à courir après des racistes pour les attacher ou je ne sais trop quoi. Il n'y a aucune loi qui interdit à qui que ce soit d'être raciste et ce même de se proclamer raciste. Il n'y a aucune loi qui interdit ça. Ce qu'il nous faut combattre, ce sont les comportements racistes. Et ces comportements-là sont appris dans les médias. Les médias qui, d'une certaine manière, ne nous représentent pas, donc ne donnent pas la possibilité aux Noirs ou aux Amérindiens, aux Autochtones et autres de présenter leur propre image pour dire qui ils sont, mais qu'on utilise, comme des Normands Brathwaite par exemple, qu'on utilise pour donner une image négative du Noir. Et là, les enfants entendent ça, entendent leurs parents répéter ça, entendent des affaires qui passent dans la petite vie, etc., etc. Et là, quand ils rencontrent un Noir sur la rue, c'est à ce niveau-là qu'ils le traitent. Ouais. Alors moi, je dis et je répète, nous n'allons rien gagner à combattre les racistes. Ce qu'il faut combattre, ce sont les comportements racistes. Et il y a les médias qui les transportent, il y a des entreprises qui les ont dans leur mécanisme. C'est ça qu'on appelle un racisme systémique. Et ce sont ces réflexes-là qu'il faut casser. Alors quand Radio-Canada nous dit ce genre de propos n'était pas acceptable il y a 20 ans, mais on vous le présente aujourd'hui, comme quoi qu'il est acceptable aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui qu'il n'est pas acceptable. Mais il ne l'a jamais été. Alors, ça me révolte d'entendre ces choses-là.
Frédéric Boiron, sociologue québécois d'origine haïtienne, conseiller stratégique indépendant du service de police de la ville de Montréal, chroniqueur à Radio-Canada, CUTFM. Vous venez donc d'ajouter un troisième titre à votre série « Mythes, vérités et mensonges sur la démocratie ». Et le lancement, c'était le 10 octobre dernier. Inconduite, tweets et autres bullshit d'une élite en faillite. Et vous savez ce qui m'a vraiment impressionné chez vous, vous avez une autre façon assez originale hein, de faire la promotion de vos produits, de vos livres. Et vous avez commencé avec des clips un peu provocants, mais une façon pour vous de promouvoir, partager sur Facebook la venue de votre livre. Qui en a eu l'idée?
En fait, j'ai enseigné des communications à McGill pendant quelques années. Donc, j'ai non seulement des compétences à ce niveau-là, mais aussi j'ai des gens que j'ai rencontrés à l'université qui sont meilleurs que moi, qui m'ont donné de précieux conseils. Donc, j'ai travaillé moi-même avec ça. Puis, je suis entouré aussi d'une firme composée de jeunes qui sont dans la vingtaine, qui maîtrisent les médias sociaux, qui sont capables de positionner les choses, me dire à quelle heure ça va sortir pour que ça ait le plus d'impact.
Oui.
Mais au niveau du contenu, c'est moi qui ai travaillé le contenu. J'ai reçu tellement d'appui de gens plus compétents que moi là où j'avais des faiblesses. Donc c'est ça qui a donné ça. Et oui, ces capsules-là, ces clips-là ont très, très bien fonctionné parce qu'en même temps, je voulais que même si quelqu'un n'achète pas le livre, que je l'amène quand même à une réflexion
oui.
Par rapport à la chose. Donc, ce n'était pas seulement de dire je vais inviter les gens à acheter mon livre et quand ils vont acheter le livre, ils vont savoir de quoi je parle.
En tout cas, le pari est gagné, hein, parce que en Bretagne, vous avez plusieurs adeptes maintenant. Il y a des gens qui vous suivent.
Ah, ben, je suis très, très heureux de ça. Très, très heureux de ça. C'est important pour moi. J'ai un public qui vient aussi, évidemment, du Québec, d'Haïti, de là où je suis né, de la France, en Indonésie, au Madagascar, en France, où j'ai été donner des conférences aussi. Donc, je suis très, très content de voir. Moi, ce qui me fait énormément plaisir, c'est quand je reçois... Je vois qu'au Québec, au Canada, je dirais, même aux États-Unis, la communauté haïtienne aux États-Unis achète mes livres. Ce sont des gens qui ont 35 ans et plus qui achètent mes livres. Mais en Haïti, en Indonésie et au Madagascar, les gens qui achètent mes livres ou qui me suivent ont 35 ans et moins.
Ah oui.
Alors, ce qui me plaît, c'est quand on m'écrit pour me dire... Je suis en train d'écrire une thèse, je suis en train de faire un devoir, je suis en train de faire un exposé, une présentation. Je vous ai cité ou je me suis inspiré de ce que vous avez dit. Alors moi, c'est C'est ça qui me fait le plus plaisir. Ce n'est pas de vendre des livres qui me fait plaisir, parce que je ne suis pas un vendeur de livres, je suis quelqu'un qui veut partager des idées.
Oui.
Alors, je dis souvent aux gens, vous avez, si vous prenez mes trois livres, vous les mettez un à côté de l'autre et vous allez sur mon blog qui est gratuit, frédéricboiron.com, vous avez plus de matériel sur mon blog que dans mes livres.
Mmh.
Donc, le livre, c'est un des outils que j'utilise pour présenter mes idées.
Oui.
Mais j'ai une chronique à Radio-Canada, je peux écrire dans la presse, je peux passer à votre émission. Donc, pour moi, l'idée, c'est d'être présent puis d'amener les gens à réfléchir autrement autour de la chose. Okay. Je n'écris pas pour avoir raison. Je ne parle pas pour avoir raison. La seule raison que je cherche, c'est que quelqu'un amène l'idée que j'apporte plus loin.
Oui.
C'est ce que j'ai déjà
fait. En tout cas, c'est très rafraîchissant. En deux secondes, le temps passe malheureusement. Comment ça se passe à la police de la ville de Montréal ces jours-ci?
Ben, ça va très bien. Je suis très content de dire que la police de Montréal est ouverte au changement. Ce que j'ai vu, les gens que j'ai rencontrés, ils sont ouverts au changement, ils sont conscients du problème et ils sont prêts à avancer. Donc, nous travaillons ensemble. J'ai déposé un premier rapport. Donc, on va sûrement en entendre parler dans les prochaines semaines ou bien au retour des fêtes. Mais j'ai déjà déposé un premier rapport sur le travail qui a été entamé.
Mmh. On aimerait vous inviter la prochaine fois pour parler de la diversité dans les médias. Alors, si vous avez du temps, n'hésitez pas à vous préparer. On va vous appeler très prochainement. Inconduite, tweet et autres bullshit d'une élite en faillite, Frédéric Boiron navigue avec élégance dans ce style d'écriture qui lui est propre. Il propose des sujets inédits, instructifs et pertinents. Il les livre avec sérieux et sarcasme, avec rigueur et ironie, avec précision et dérision. Il est méthodique et satirique. Frédéric Boiron, un grand merci et que la force soit avec vous.
Le plaisir est partagé et merci à vos auditeurs et auditrices qui ont pris le temps de m'écouter. Et je les invite une fois de plus à visiter mon site web www.frédéricboiron.com.
Au revoir.
Tout ça, M. Ferry, le bullshit.
Actuellement, cherchez les sénateurs. C'est pour vous prendre deux tiers là-dedans qui dans le palais là. Ils ne sont pas capables pour venir là pour conseiller.
CIUT 89.5, Toronto. Attention, prêt, dégusté. FCI et vos restaurants Élysée vous invitent à découvrir la délicieuse cuisine de Prisca Morgeon. Tous les mercredis et vendredis à 11h, rendez-vous sur les Facebook de RCI Martinique et de Snack Élysée. Et retrouvez les vidéos Tété Douette. Des recettes savoureuses et équilibrées, faciles à réaliser chez vous. Alors faites-vous plaisir. Encore plus de bonus gourmands vous attendent sur le Facebook Snack Élysée.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
Vous êtes sur RTL. 7h, 9h30. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Mais oui, il est 8h45.
Ah bah voilà.
Et avec Laurent Gérard.
Bonjour,
Laurent.
Bonjour Yves.
Oui. Et avec Mademoiselle Jade. Bonjour.
Bonjour, bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi. Jean-Laurent, ça va?
Bonjour.
L'ouverture de la saison d'hiver approche pour les stations de ski. Le ministre de la Santé est avec nous pour en parler. Bonjour Monsieur Véran.
Bonjour Madame, merci de me recevoir. J'ai de très bonnes nouvelles à annoncer aux amateurs de ski.
Ah, formidable. Lesquelles?
Nous avons décidé d'autoriser l'ouverture des hôtels. Les vacanciers pourront donc dormir dans la station de ski plutôt que de rentrer chaque soir chez eux. chaque soir chez eux.
Oui, ah, oui, mais enfin ça c'est le minimum.
Alors les restaurants resteront en revanche fermés et les vacanciers devront manger dans leur chambre d'hôtel. Ceux qui souhaitent des spécialités montagnardes devront amener leur propre appareil à raclette.
J'en déduis que les commerces alimentaires resteront ouverts.
Non plus.
Non. Ah.
Les amateurs de raclette devront donc traire eux-mêmes les vaches dans les granges et fabriquer leur propre fromage à raclette.
Ah, oui.
Idem pour leur charcuterie, ils devront la fabriquer eux-mêmes avec les cochons mis à disposition par la mairie.
Est-ce qu'on pourra toujours prendre des cours de ski ?
Non.
Non.
Les cours de ski seront interdits, mais les moniteurs de ski pourront continuer d'avoir des rapports sexuels avec les vacanciers esselés, à condition de se nettoyer l'engin au gel hydroalcoolique et de porter un masque pendant le rapport. Des caméras de vidéosurveillance seront d'ailleurs installées dans chaque chambre d'hôtel pour repérer les fraudeurs qui encourent la réclusion à perpétuité.
Je crois que je ne sois un peu dissuasif.
Hein. Vous croyez ?
Et sur les pistes ?
Alors, sur les pistes, pour éviter les collisions entre skieurs, ce qui arrive souvent, les pistes noires, rouges et bleues seront fermées.
Aïe.
Seules les pistes vertes resteront ouvertes. Quant au ski de fond, plus sportif et donc générateur de miasmes contaminants, il sera, lui, interdit.
Ah, carrément.
Les vacanciers fondeurs qui ne respectent pas les règles seront abattus par la gendarmerie.
Et c'est trop contraignant, on va dire. Personne ne va venir.
Tout à fait.
Oui.
C'est le but de la manœuvre. Restez chez vous. Merci.
Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous.
Avec la nouvelle application « Apprendre le français avec TV5Monde », apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Cela veut dire que nous avons notre mot à dire. Cela veut dire que nous avons notre place au sein de ce syndicat. Alors, il est totalement inadmissible que nous payons les cotisations comme les autres et que nous ne pouvons pas accéder à des postes de responsabilité. C'est ça l'absurdité. Dis-nous, que le syndicat, que l'AFO nous explique pourquoi nous ne pouvons pas accéder à des postes de responsabilité. Qu'ils nous le disent. Il y a de la compétence au sein des enseignants et enseignants en contemporain issus de la diversité. Il y a de la matière grise, il y a de l'expérience, il y a des gens qui ont des connaissances qui veulent les valoriser aussi. Nous ne demandons que d'avoir notre place. Nous ne voulons que être valorisés à notre juste valeur. Nous ne voulons prendre la place de personne. Nous voulons prendre la place qui nous revient de droit. Nous payons des cotisations comme tout le monde. Nous y avons droit. Nous avons le droit de participer à la vie de ce syndicat. C'est ce que nous réclamons. Pourquoi nous sommes exclus de la vie, de la gestion de ce syndicat? Pourquoi? Qu'on nous explique pourquoi? Alors qu'il y a de la compétence, alors qu'il y a des connaissances, alors qu'il y a la matière grise au sein des enseignants issus d'adversaires et notre tirée.
Et il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre.
Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dont le grand livre des humains place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la gente masculine qui parle fort, prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ceux sans sourciller, celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie et votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celles qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Kamala Harris. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. Merci à au piano, au chant et à la production musicale de tout l'album, mesdames.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adra bella cosa, ding-e-dong.
Non, le temps.
Ding-e-dong.
Écoutez la planète chanter.
Bringing you 60 minutes every hour, 24 hours a day, but not without you. Visit CIUT.FM and donate.
C'est une œuvre musicale poétique, inspirée par les deux rives de la Méditerranée. Délivrance, c'est le titre du nouvel album de la franco-tunisienne Nawel Benkrayem. Elle nous rejoint dans quelques instants. On va d'abord regarder un extrait du clip éponyme.
Je rêvais ce qui se noie et les rêves à l'étroit. Je rêvais mes idéaux.
Nawel Benkhayem, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue au Journal Afrique. On est ravis de vous recevoir. Délivrance, c'est le titre de cet album. De quoi êtes-vous délivré? Où voulez-vous vous délivrer?
Sur cet album, je me suis livrée déjà beaucoup. Sur le précédent, je donnais beaucoup mon regard sur le monde. Et là, j'y livre et délivre quelque chose de plus personnel. Même si je veux parler de l'exil, de la double culture, je le fais vraiment d'une façon très subjective, comme pour attraper un peu des paysages intérieurs. Et puis j'y parle aussi de thématiques qui m'ont traversée, de certaines épreuves ou désillusions, de l'aventure de donner la vie aussi. Et tout ça, c'est voilà la parole de l'intime, la délivrée quoi.
Oui, c'est un album qui est beaucoup plus personnel peut-être hein, que le précédent. Vous chantez en anglais, en français, en arabe. Et ça aussi, c'est un peu de votre intimité que vous nous faites partager.
Oui, alors ça, c'est pas tellement un choix, c'est que c'est des outils que j'ai comme ça, et cette hybridité-là, c'est ma matière à moi, donc je vais puiser dans mon imaginaire, et je n'ai pas envie de faire de choix, et je pense que l'art, c'est bien l'endroit où on n'est pas là pour simplifier, on a le droit d'avoir des identités multiples, et moi j'aime qu'elles coexistent comme ça, quoi.
Oui, vous parlez d'identité multiple et d'hybridité parce que vous êtes franco-tunisienne, vous avez grandi entre les deux pays, scolarisée dans un établissement français en Tunisie, et cette culture hybride, effectivement, c'est la vôtre, et vous avez voulu la faire transparaître finalement, peut-être même pas par choix comme vous dites, mais tout naturellement elle apparaît dans cet album.
Oui, tout à fait. Et, par exemple, pour trouver ça, cet équilibre aussi dans la musique, j'ai travaillé avec, j'ai co-réalisé avec Mitch Olivier, qui est un producteur et réalisateur qui a travaillé sur autant du hip-hop comme des mix pour NTM ou Diams que pour du Bachung ou du Renault, avec en commun toujours des albums qui sont restés un petit peu atemporels. Et dans son approche très large et très éclectique, il m'a aidé à ne pas faire de choix, à explorer en fait tous mes horizons. Et c'était très riche de collaboration cet album, et je pense que c'est important pour moi que toutes ces couches-là dans la forme elles soient là quoi, elles soient plurielles.
Alors justement, on va parler de vos différents horizons musicaux, mais on va d'abord écouter un autre titre, regarder un clip, c'est 9 mois, on en reparle après, 9 mois sans S.
Je cherche un abri, je suis ton abri.
Neuf mois. Alors effectivement, c'est l'histoire d'une maternité, mais c'est 9 mois sans le S à moi. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu exprimer avec ce jeu de mots?
Le travail sur les mots permet de dire des sous-textes, et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire « Ah, c'est merveilleux, une grossesse, c'est merveilleux », mais ça peut être aussi très vertigineux. Et j'avais envie d'être au plus juste par rapport à la façon dont j'ai vécu ce bouleversement. Et comme tout bouleversement, c'est merveilleux et vertigineux, et on se transforme avec. On donne la vie à un être qui nous transforme aussi en même temps. Donc on se redonne la vie d'une certaine manière. En tout cas, moi, c'est d'une façon très complexe que je l'ai vécu, et écrire cette chanson et faire ce clip avec Victor Delphine qui a capturé ces images, c'était une façon de m'approcher de cette ambivalence. Donc on voit la calligraphie de Chouf, qui est un artiste tunisien. La calligraphie, c'était ma manière sur le ventre de m'approcher de la perfection, et puis les gribouillages pour dire aussi le bordel dans lequel on peut être embarqué.
9 mois, délivrance, c'est aussi une délivrance hein. C'est aussi comme ça qu'on appelle
l'accouchement. Oui, c'était un jeu de mots.
C'est encore un jeu de mots. Alors dans cet album, il y a comme un voile, j'arrive pas à le dire mieux que ça, comme un voile de nostalgie méditerranéenne, avec en même temps des clips et des titres et des sonorités très modernes, très électriques. Là aussi, vous avez fait appel finalement à toutes vos influences musicales et à certaines collaborations pour rendre cette œuvre.
Oui, c'est-à-dire que je trouve ça important qu'il y ait quelque chose de sombre et lumineux, parce que c'est vraiment ma façon d'appréhender le monde, quoi, un peu comme un clown qui serait tout le temps au bord des larmes et au bord de la joie. Et je trouve qu'on est dans un monde avec son lot de chaos, mais en même temps, on est en vie et on est voilà. Et donc, ouais, dans les collaborations, il y a Mitch, du coup, qui a un peu aidé à trouver la cohérence. Et sinon, dans les collaborateurs, il y a autant des gens qui viennent du hip-hop, comme Chambre 20, qui a fait justement avec moi le titre 9 mois. Nassim Kouti, avec tout son patrimoine algérien. Et Rock aussi. Aussi, les londoniens Transglobal Underground, qui ont apporté une touche plus expérimentale. Qui me tient aussi à cœur, un peu hors format, un peu instinctive aussi. Et c'est des gens que j'ai choisis avec beaucoup d'instinct et beaucoup de liberté aussi, parce que j'ai pu aller au bout de mon album en tant que productrice aussi. Donc c'est vraiment des gens que j'ai choisis pour mettre le point final à cet album, quoi.
Alors, dans cet album, il y a beaucoup de sujets, hein. Vous avez évoqué le voile, par exemple, vous parlez du voile, vous parlez de la révolution, des tourments de l'histoire, hein, en Afrique du Nord. Est-ce que l'actualité, ce qu'on appelait les printemps arabes et ce qui se passe dans le nord de l'Afrique, au Maghreb, est-ce que vous vous sentez inspiré par ça quand vous composez, quand vous écrivez vos chansons?
En tout cas,
par les sujets sociaux, en tout cas, peut-être, plus que politiques, je ne sais pas.
En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'essayer de retranscrire l'intime. C'est-à-dire que ce soit les mots ou les atmosphères musicales, c'est vraiment pour essayer de raconter ces paysages intérieurs. Mais bien sûr qu'ils sont poreux et connectés à ce qui se passe autour de moi. Et que quand on est femme, quand on est arabe, on est peut-être dans des intersections qui font qu'on est encore plus poreux à certains sujets. Donc évidemment, ça impacte mon travail et mes émotions. Mais par exemple, la Révolution des figuiers, c'est une réécriture de Al-Ajel que j'avais écrit au moment et chanté au moment des printemps arabe, en arabe à l'époque. Et là, j'ai écrit les couplets en français avec ce qui s'était passé depuis, avec les échos des autres révolutions, avec récemment ce qui s'est le soulèvement en Algérie. Et je le fais du coup avec mon angle, avec cette espèce d'amertume aussi et de nostalgie, de quand même, voilà, c'est pas non plus une réussite. Enfin, je veux dire, dans le monde arabe, la jeunesse est encore très abîmée, mais il y a encore cet élan. Et voilà, j'essaie de m'approcher de comment je ressens ça sans essayer de le dire d'une façon comme une vérité politique. Donc c'est beaucoup plus complexe et imagé.
Plus imagé, plus poétique aussi. D'ailleurs, dans cet album, on voit, hein, et on le voit aussi dans les clips, et quand on vous a vu sur scène, on s'en rend compte, il y a quelque chose de musical, de poétique, mais aussi du jeu théâtral. Et en fait, finalement, c'est tout votre talent, parce que vous êtes à la fois chanteuse, musicienne, comédienne aussi, parce que vous avez fait vos débuts au cinéma avec Tony Gatliff. Vous mêlez tout ça, tout est à l'intersection, vous employez ce terme d'intersection. Pour vous, la musique, la comédie, le cinéma, tout ça, c'est la même chose. Il y a quelque chose de commun, en tout cas.
Oui, bien sûr, c'est être au service de la vérité, mais pas la vérité au sens didactique, la vérité de l'âme, quoi, de la complexité de cette vérité-là. Et pour s'y approcher, en effet, moi, j'ai ces outils-là, et pour moi, ils sont très complémentaires, parce que quand on écrit, c'est plus introspectif, et puis tout d'un coup, quand on interprète, c'est une façon de partager ce qu'on a essayé de raconter, mais dans tous les cas, c'est l'art de la rencontre, de dire au mieux c'est solitude, quoi. Et je pense que c'est là où on est le plus proche de tous les humains, parce qu'en fait, je pense pas qu'il y en ait un seul qui vive les choses d'une façon simpliste ou linéaire. Ça, c'est la façade. Mais
ça, c'est la façade. Délivrance, qui est donc un album au service de la vérité de l'âme. On peut peut-être le dire comme ça. Merci à vous, Nabel Ben Krayem. Alors, je rappelle que vous êtes en concert, en tout cas sur scène, ce lundi 14 ouais. septembre, à la Maison de la Poésie. Et là, ce serait une prestation scénique, hein, un spectacle de poésie. Donc là encore, on va voir tous vos talents à l'œuvre.
Avec puis, Marcel Bozonnet, un grand comédien et metteur en scène.
Merci de le citer. et puis, à la fin du mois aussi, hein, donc peut-être quelques dates, 26 septembre à Paris, pour le Festival de la Goutte d'Or, et le 28 octobre à l'Institut du Monde Arabe. Merci à vous d'être venu nous voir.
Merci beaucoup.
Je rappelle le titre de votre album, Délivrance, et on va terminer en musique avec un autre de vos titres, Denden City, plus décalé, regardez. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité, à demain.
Et oui, nous sommes arrivés presque à la fin de notre petite balade intercontinentale. Une émission un peu spéciale et décalée aujourd'hui. Je remercie la cinéaste Gentille Assis et toute l'équipe de l'ONF. Très beau film, Sortir de l'ombre, à ne pas rater. C'est disponible sur le site de l'ONF.ca. Merci au sociologue Frédéric Boiron. Vous pouvez commander son livre directement en ligne sur son blog frédéricboiron.com. Et la maison d'édition Prise de Parole est en floraison ces temps-ci avec plusieurs nouveaux livres des auteurs de l'Ontario, de l'Acadie et du Québec. Je vous invite à visiter leur site prisedeparole.ca ou encore le nôtre, popourichaud.com. D'ailleurs, Prise de Parole est à la recherche d'un responsable du traitement des archives, si cela vous intéresse. Merci à TV5 Afrique, TV5 Monde, Linda Giguère, Grand Corps Malade, grand poète que nous venons d'entendre, DJ Devera à Toronto pour le montage et le mixage. Salut spécial à Darnas, Jean Jubeneau, Sharon Weiss, merci pour la belle contribution, Diane Chaperon-Laure et professeur Eddie Bouraoui. Merci, merci mille fois de votre générosité. Pour terminer en beauté, je vous donne un petit aperçu des artistes finalistes du prix Découverte de Radio France Internationale. RFI d'ailleurs, qui vous invite à voter pour votre candidat préféré. Vous y trouverez tous les liens sur notre site ou notre page Facebook. Et après 9 ans de silence, l'artiste rappeuse Mouna revient avec un single intitulé « Qui ?» de son vrai nom, Awa Mounaya Yani. Artiste rappeuse bénino-sénégalaise, évoluant dans le milieu du hip-hop depuis plus d'une quinzaine d'années, elle est parmi les finalistes et vous allez entendre sa voix dans un instant. Aussi parmi nous ce dimanche, Young Asewaye, artiste, rappeur, chanteur de nationalité congolaise. Dès son plus jeune âge, il rencontre l'art, s'intéresse au dessin puis au théâtre. Mais c'est de la musique dont il tombe amoureux, sonorité enrichie par ses diverses expériences d'expatriés. La musique du MCHI ne manque certainement pas de couleur. Un candidat à surveiller, madame, monsieur, lors de ce concours prix Découverte RFI 2020. Et enfin, si on a le temps, nous entendrons un autre artiste, Ami Yerewolo, la rappeuse malienne qui fait trembler le patriarcat. Elle est rappeuse d'origine malienne, elle est plus très très en vogue ces temps-ci. En ce moment, c'est sa chanson « La lettre » qui marche très très fort dans les radios en Afrique et même à Paris, dans certains milieux. Une vraie poète que j'aime bien. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine et que la force soit avec vous. Prenez soin de vous.
Who taught you, please? Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other.
Malcolm, autant de questions d'actualité. Parce que malheureusement l'esclavage demeure une réalité. Zoom sur le plus béni, car plus riche de tous les continents. Où trop de peuples dans ce sont des bases, aucun un continent. But de déshumaniser, rentabiliser, capitaliser. Via des génocides légalisés, des culturations planifiées. Identité piétinée, quand paraître comme le colon devient le rêve du colonisé. Nos petites filles veulent toutes ressembler à Barbie. Surtout pas leur mère, c'est Eternal Aspin. Trop primitive, qui sera un peu trop passive. Figé comme des vues que tu m'as effacé, mondialisé. Qui vous a appris à vous sentir inférieur? Pensez que les autres sont meilleurs, que votre bonheur est ailleurs. À tel point que vous pensez que vous êtes tous des maudits. Qui vous apprend à détester vos cheveux crépus? Qui vous apprend à détester le noir de votre peau? Qui vous apprend à détester la forme de vos nez? Qui la forme de vos lèvres? À détester la race dont vous êtes issu? À tel point qu'un noir ne supporte plus son frère noir? Qui vous a appris à détester ce que tu as fait le bout?
1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. Dans le mal à l'aise.
Oh Mbokanini, courant c'est courant, maïti maïti, et Bellaba diplôme de salaté. Oh Mbokanini, courant c'est courant, maïti maïti, et Bellaba diplôme de salaté.
Mboko yo trafic d'influence, c'est loco pamba, moke moke, tu sais qui je suis. Nakamu écoute, naba chauffeur à 100, samba otunabe, tu sais qui je suis. Aussi si kodami, ma brosse au bois, kanandela, oyo kasonite. Wana pe foleta, yako sala, non non ya ya, yonde osa salite. On n'est pas tribaliste, faut pas nous diviser. Côte Kolinga ka équipa ka écoloté. On n'est pas des soulards, faut pas nous juger. On boit les bières parce qu'il y a pas l'eau au robinet. À papa, champagne, go enter for your eyes. You go feel what I feel, pain enjoy at the same time. J'ai parlé, j'ai fini. Si t'es pas d'accord, je suis pas là-bas. Abou Pierre.
Oh Mbokanini, courante et courante. Mighty, mighty. Et Bellaba diplôme de salaté. Oh Mbokanini, courante et courante. Mighty, mighty. Et Bellaba diplôme de salaté.
1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. Dans le mal
à l'aise. La bière est moins chère ici que la nourriture. Faites un choix à tous les prix. Premier bête serait plus de millionnaire que l'État. C'est pas un débat, j'ai seulement dit. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Aucun débo et défaut de face. Pas si mentalité novelasse. Zangambongo, mais à la napelasse. Internet coûte ou colombaté. Ça, on a parlé jusqu'à fatiguer. J'ai à peine guetté deux statuts sur WhatsApp. Cher client, votre forfait est épuisé. Si je me barre au set, je vais faire un carton. Mais pour ça, il me faut un passeport. À la préfecture, on m'a dit, monsieur, revenez demain, on n'a plus les cartons.
Oh Mbokanini, courante et courante. Mighty, mighty. Et Bellaba diplôme de salaté. Oh Mbokanini, courante et courante. Mighty, mighty. Et Bellaba diplôme de salaté.
1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. Dans le mal à l'aise.
Ouais. Good thing you're on this right.